Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous ce matin, de découvrir ce lieu qui est une grâce de Dieu. C'est pas simple en ce moment de trouver des solutions pour se réunir, louer le Seigneur avec les circonstances. On se réjouit de voir ce lieu, cet endroit où on peut se réunir pour louer le Seigneur. On se connaît pas pour la plupart et pourtant on a pu prendre ensemble part à la louange de notre Dieu, parce que même si on se connaît pas, on est unis par le même Seigneur et c'est avec beaucoup de joie du coup qu'on peut partager ces moments avec vous. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet dans lequel je n'ai absolument aucune gloire à mettre en avant, parce que je suis plutôt un piètre exemple de ce dont je vais parler. Et dans le même temps, je veux aussi reconnaître la grâce de ce que Dieu fait dans ma vie, dans le domaine dont on va parler. Donc je suis Mayeul, je suis marié à Eva, on a 3 enfants qui sont là-bas, du coup, au club. Et j'ai le privilège depuis 4 ans maintenant de partager mon temps entre un mi-temps à l'église, en tant que ancien, en tant que pasteur, et puis mon autre mi-temps dans mon activité, qui était ma première activité séculière, à l'éducation nationale. Et ça a été tout un cheminement avec le Seigneur pour en arriver finalement à cette situation actuellement, avec un mi-temps à l'église, et puis un mi-temps avec l'éducation nationale. Et ce dont je voudrais vous parler ce matin, donc, c'est du temps. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez le temps de faire ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous avez le temps de faire ce que vous devriez faire? Est-ce que vous avez le temps de faire ce que les autres voudraient que vous fassiez? Hein, c'est finalement une question très personnelle, et c'est pour ça que je vous disais que finalement, je suis un piètre exemple, mais dans le même temps, je veux aussi louer le Seigneur de la grâce de ce qu'il peut faire dans la vie de faibles serviteurs. Finalement, ça revient à se poser la question, comment est-ce que j'occupe mon temps? Et c'est vraiment une question très personnelle et finalement très importante. La question du temps est intimement liée au sens de notre vie. On fait de notre temps ce qui a du sens pour nous. Et vous savez, dans le monde, on dit le temps, c'est de l'argent. Mais en réalité, le temps, c'est beaucoup plus. Le temps, c'est la vie. La manière dont on dépense notre temps, c'est la manière dont on dépense notre vie, dont on vit notre vie. Le temps, c'est aussi une ressource que Dieu a donnée de manière très universelle. Nous disposons tous de journées, de 24 heures, de semaines, de 7 jours, d'années de 365 jours. Voilà une ressource qui a été distribuée avec énormément d'équité sur toute la surface de la Terre et quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce temps que Dieu nous donne? Alors, pour répondre à cette question, et il y a beaucoup de passages dans la Bible, mais j'aimerais qu'on puisse prendre ce matin 3 versets dans le chapitre 5 du livre aux Éphésiens. Donc, Éphésiens, chapitre 5, les versets 15, 16 et 17. 3 versets qui vont ponctuer finalement cette réflexion autour de est-ce que nous avons le temps? Je vous laisse le prendre dans vos Bibles, Éphésiens chapitre 5, versets 15, 16 et 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jusque-là, la parole de Dieu, et j'aimerais prier avant de continuer sur la méditation de ces quelques versets. Seigneur, merci pour le privilège de ta présence. Nous l'avons chanté, nous t'avons loué ce matin pour cette présence qui est une grâce, une présence imméritée, une présence qui coule de ton œuvre à la croix pour nous. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais notre temps, tu connais même chaque détail de notre temps, même les parties que peu connaissent, même celles que nous n'oserions pas avouer, celles dont nous ne sommes pas fiers. Et merci Seigneur, parce que ce matin nous avons pu nous présenter devant toi tels que nous sommes. C'est toi qui nous as aimés le premier, alors que nous étions encore pécheurs. Et cette œuvre qui coule de la croix, tu veux l'accomplir encore dans nos vies. Alors Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ta parole ce matin. Nous voulons entendre ta voix. Et Seigneur, nous laisser enseigner par toi sur la manière d'utiliser notre temps. Au nom de Jésus. Amen. Alors trois versets, versets 15, 16 et 17. Et je vous propose de commencer par regarder le verset du milieu, le chapitre, le verset 16, qui dit ceci, c'est une parole connue, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Puis on verra ensuite le verset qui précède et puis le verset qui suit. Je sais pas si ici, certains d'entre nous ont l'impression de perdre parfois leur temps parce que les jours sont mauvais. Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir des circonstances difficiles, il peut y avoir des problèmes familiaux, des défis au travail. Il y a le défi de cette crise sanitaire. Ce verset nous engage à considérer ce temps mauvais, ces jours mauvais, et pourtant nous enjoint de racheter le temps au milieu de ces circonstances. Peut-être que tu as jamais encore fait le pas de dire à Dieu « Je perds mon temps sans toi, et maintenant je veux te confier ma vie ». Je me souviens le jour où j'ai fait ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, ma vie a commencé à être transformée. Donc, racheter le temps. Si on regarde dans le livre d'Éphésiens, ce verset se trouve dans la deuxième partie d'Éphésiens. Et comme souvent dans les lettres de Paul, il y a deux parties. La première partie, et ici c'est les chapitres 1 à 3 dans Éphésiens, nous parle de ce que Dieu a fait pour nous au travers de Christ. On est comme spectateur dans les trois premiers chapitres. Voilà ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Tu y es pour rien, c'est ce que Christ a fait. Et si vous relisez les trois premiers chapitres d'Éphésiens, c'est ça qui nous est écrit par Paul. Et puis, à partir du chapitre 4, 4, 5, 6, chapitre 4, 5, 6, cette fois, nous devenons acteurs. Il s'agit, dans les chapitres 4 à 6, de ce que Dieu attend de nous, maintenant que nous savons ce que Christ a fait. Et donc, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire ce matin, il faut avoir conscience de ça. Quand Paul nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais », il est en train de nous le dire dans la deuxième partie. Il nous demande de nous appuyer sur ce que Christ a fait pour nous, dont nous sommes au bénéfice, pour maintenant réfléchir à ce que Dieu attend de nous. Dans les lettres de Paul, on trouve deux fois cette expression, « racheter le temps », dans Éphésiens, comme on vient de le lire, et puis dans Colossiens, où il est dit, presque la même chose, « conduisez-vous avec sagesse avec les gens de l'extérieur et rachetez le temps ». Je suis pas du tout locuteur grec, mais j'ai cherché avec mes outils quel était le mot qu'il y avait derrière ce mot « racheter ». Racheter le temps. Donc c'est le mot grec hexagorazo. On ne le retiendra pas, c'est pas grave. Mais c'est intéressant de savoir que ce mot grec, il fait référence à une situation très concrète de l'Antiquité. Vous savez qu'il y avait un marché, souvent, dans les villes grecques romaines, comme on peut en avoir toujours aujourd'hui. Et sur ce marché, il y avait des commerçants qui vendaient sur leurs étals plein de bonnes choses. Et imaginez quelqu'un de riche qui s'approche de ce marché, par exemple, il veut des légumes, et il s'approche de l'étal à légumes, il dit « qu'est-ce que vous avez ?» Et le marchand lui montre tous les légumes qui sont présents, tout le choix qu'il a. Et là, ce riche dit « j'achète tout, je prends tout ». C'est exactement ça le mot grec qu'il y a derrière « racheter ». Cette idée qu'il devient maître de tout l'étalage. Le chrétien est appelé à être maître de son temps. Ce mot grec, il a aussi un sens qui est très lié, mais que je veux imaginer d'une autre manière. Imaginez que vous avez un objet qui vous a été peut-être transmis par les générations précédentes, vos grands-parents, vos parents, et il a beaucoup de valeur pour vous. Malheureusement, un cambriolage fait que vous perdez cet objet. Puis un jour, vous vous retrouvez à faire les magasins et vous tombez chez un antiquaire sur cet objet, vous le reconnaissez. Entre mille, vous le reconnaîtrez. C'est le vôtre, c'est cet objet qui vous tient tellement à cœur. Cet objet était tombé entre de fausses mains. Et lorsque vous le voyez, vous êtes prêt à payer le prix fort pour le racheter. C'est exactement le sens de ce mot « racheter » en grec. Un objet qui est tombé entre de fausses mains et que on va racheter avec le prix fort. Notre temps, notre vie, est tombé comme dans de fausses mains. Et la parole nous enjoint à racheter ce temps qui est tombé entre de mauvaises mains, entre de fausses mains. Et la dernière image que je veux utiliser pour expliquer ce mot racheter en grec, là aussi c'est dans l'Antiquité qu'on trouve cette image. Imaginez l'esclave sur ce même marché romain. On parle plus de légumes, on parle de vie humaine qui était vendue comme des légumes. Et imaginez cet esclave qui est exposé sur la place publique et il rêvait d'une chose, qu'un bon maître vienne et le rachète. Le rachète non pas pour l'exploiter, mais le rachète pour lui rendre sa liberté. C'est exactement ce mot que signifie le mot racheter. Souvent, nous restons esclaves dans la gestion de notre temps, de notre ancienne manière de vivre. Et ô combien je me retrouve le premier là-dedans. Donc si on veut réfléchir à racheter le temps, c'est bien plus que simplement organiser notre temps. On peut essayer de le faire, il y a des formations qui existent, des livres super pour dire comment bien organiser votre temps. J'ai lu des livres comme ça. Mais il y a ici bien plus que cela. Il faut d'abord prendre conscience que notre temps, finalement notre vie, était soumise à quelque chose qui nous dépasse et qui était plus fort que nous, et qui s'appelle le péché. Une vie où nous étions esclaves de quelque chose qui nous a enlevé notre liberté, et c'est notre condition humaine. Si nous voulons racheter notre temps, non pas au sens dont les entreprises parlent dans les formations pour organiser son temps, mais si on veut racheter notre temps en tant que chrétien, il nous faut réaliser que nous ne pourrons pas le faire sans avoir les regards fixés sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est exactement le contexte de ce passage. Et il y a deux autres occurrences, mais je ne vais pas m'y arrêter, dans le Nouveau Testament où ce même mot grec est utilisé. Il est utilisé 4 fois. Éphésiens, Colossiens, et 2 autres fois dans Colossiens, où cette fois, il est question non pas du rachat d'un esclave sur la place du marché, mais du rachat de nos vies. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Alors c'est la première vérité que je voudrais exposer ce matin en réfléchissant sur le temps. Racheter le temps, c'est avant tout accepter l'œuvre de salut que Christ a accomplie pour nous. Si j'ai un problème de gestion du temps, je dois me poser la question, où est la place du Seigneur dans ma vie, dans mon temps? Seigneur, qu'est-ce que toi tu peux faire dans cette problématique de gestion du temps? Non pas moi avec mes propres forces, mais avec cette conscience que j'ai désespérément besoin de ta grâce. C'est parce que tu es mort pour moi, que tu as racheté ma vie, que je peux avoir de l'espoir en regardant mon agenda, qui m'accable peut-être, parce que toi tu as quelque chose à faire, parce que tu as racheté ma vie et tu veux racheter mon temps. Le contexte du chapitre 5 d'Éphésiens, c'est un contexte de « Est-ce que ton temps est dans les ténèbres ou dans la lumière ? Est-ce que ton temps est une folie ou est-ce que ton temps est une sagesse ? Est-ce que ton temps mène à la mort ou est-ce que ton temps mène à la vie ? Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est un temps qui est soumis au jour mauvais ou est-ce que c'est un temps qui est à racheter ? Donc cette première vérité, si nous voulons réfléchir à notre temps, nous devons tourner nos yeux vers l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'avais 16 ans et demi et je menais ma vie, je menais mon temps sans Dieu, ou en tout cas avec une relation avec Dieu pompier. Quand ça allait pas, je composais le numéro pour appeler à l'aide. Mais en dehors de ça, mon temps, il était bien géré par mes propres préoccupations, par mes propres envies et par mes propres mauvais choix de vie. J'avais 16 ans et demi. Vous m'auriez vu, vous auriez rigolé avec la tête que j'avais, mes cheveux longs, etc. Et puis Dieu est intervenu. Dieu m'a dit en quelque sorte, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, c'est où tu veux, comme tu veux et quand tu veux Dieu? Et de l'âge de 16 ans et demi, à l'âge de 16 ans et demi, je suis tombé à genoux en réalisant que non, j'étais bien incapable de dire à Dieu où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. J'avais connu l'amour de Dieu, j'en avais entendu parler depuis tout petit. Et ce jour-là, Dieu m'a permis de réaliser que si j'avais entendu parler de son amour, j'avais jamais dit oui à cet amour. Et ce jour-là, à l'âge de 16 ans et demi, j'ai dit à Dieu, pardon, parce que j'ai tourné le dos à cet amour que tu m'as pourtant révélé depuis tout petit. Et maintenant, je veux te dire, c'est où tu veux, comme tu veux et quand tu veux. mon temps n'a pas été révolutionnairement transformé. Mais ça a été le début d'une transformation de ma vie et de mon temps. Et il n'y a pas de meilleur choix à faire. Alors je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y en a ici qui se posent la question, mais est-ce que je perds pas mon temps sans Dieu? Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à dire, Seigneur, je veux arrêter de vivre ma vie sans toi, mais je veux me tourner vers toi, où tu veux, comme tu veux et quand tu veux. On arrive, du coup, je reviens au premier verset, le verset 15, qui est juste avant « Racheter le temps ». On le relit ensemble, verset 15 du chapitre 5 d'Éphésiens. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Faites donc bien attention. » C'est souvent une expression qui revient dans la bouche de Paul. « Faites donc bien attention, je vous en supplie. » C'est un peu comme ça qu'on peut l'entendre quand Paul le dit. Il parle à des chrétiens qui souvent se sont égarés. Et il s'écrit de tout son cœur, de tout son amour. « Hé, faites attention, il y a quelque chose là. » Et à chaque fois dans les épîtres de Paul qu'il y a cette expression « faites attention », c'est toujours relié à l'œuvre de Christ. Rappelez-vous les premiers chapitres. On vient de les lire, les chapitres 1 à 3, là où vous étiez spectateurs de l'œuvre de Christ pour vous. Faites attention à cela. Ne conduisez pas vos vies sans tenir compte de ce que Christ fait pour vous et de qui vous êtes en lui maintenant. Nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons notre temps. Puisque Christ l'a racheté, ce temps doit être sanctifié. Faire attention à la manière dont on conduit notre temps, Moïse l'avait dit des milliers d'années auparavant, dans le psaume 90. Il dit ceci, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et Moïse avait dans sa langue, en hébreu, trois mots qui permettent de compter le temps, et qu'on retrouve dans le psaume 90 ou dans Ecclésiaste au chapitre 3. Vous savez le chapitre qui dit « Il y a un temps pour toute chose. » Trois mots en hébreu. Le premier, c'est « Olam ». « Olam », ça veut dire « l'éternité ». Et là, il n'y a aucune formation d'entreprise dans laquelle on vous parlera de cette dimension du temps, de l'éternité. Tous les meilleurs livres pour organiser son temps ne vous parleront pas de cette question. Pourtant, si on réfléchit au temps, la Bible utilise ce mot pour parler du temps. « Olam », l'éternité. « D'éternité en éternité, tu es Dieu », nous dit Moïse. Finalement, considérer notre temps à l'échelle de l'éternité, ça nous appelle à nous poser cette question. Le temps que j'utilise sur cette terre, qu'est-ce qu'il représente à l'échelle de l'éternité? Cette pensée d'éternité que Dieu a mise dans mon cœur, qu'est-ce que ça doit impacter dans ma manière de vivre mon temps aujourd'hui? Finalement, cela revient à se poser la question, quel est le sens de ta vie? Je ne sais pas si vous avez remarqué comme le temps passe de plus en plus vite. Et là, j'ai devant moi des personnes qui ont la couronne des cheveux blancs et qui peuvent certainement plus en témoigner. Mais au plus on grandit, au plus on s'aperçoit que le temps passe de plus en plus vite. Un enfant de 2 ans, quand il passe 1 an supplémentaire, ça représente la moitié de la vie qu'il a déjà vécue. Alors qu'à 70 ans, quand on passe 1 an, ça passe très vite, c'est tout petit par rapport aux années déjà vécues. Alors si on met ça à l'échelle de l'éternité, on s'aperçoit que cette vie sur cette terre n'est qu'un passage. Et ça nous pose cette question, quel est le sens de ma vie? Un deuxième mot en hébreu que Moïse utilise pour nous aider à jauger notre temps, à compter notre temps. Ce mot, c'est le mot « zaman ». Ça veut dire le temps qui passe, les saisons de la vie. Vous savez, quand il est dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Le premier mot temps, il y a un temps, c'est Zaman. Je pourrais dire, il y a une époque pour toute chose. Ici, nous avons des âges et des situations de vie probablement très différentes. Ce temps Zaman, il nous parle des étapes, des périodes de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Dans quelle période de vie est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Et qu'est-ce qu'il y a devant toi maintenant? C'est ça, compter son temps, finalement. De quelle manière est-ce que Dieu veut que tu emploies l'étape de vie qui est devant toi? On peut passer notre vie sans se poser cette question et enchaîner les choses et perdre, finalement, ce contrôle que Dieu veut avoir sur nos vies pour racheter notre temps. Finalement, c'est se poser la question, Qui suis-je aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Dans quelle saison de vie je me situe? Et que vous ayez 40 ans, que vous ayez 70 ans, ou que vous ayez 15 ou 20 ans, c'est une question que l'on doit se poser. Seigneur, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qu'il y a pour moi maintenant? Et puis un dernier mot en hébreu pour parler du temps, c'est le mot « et ». Dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toute chose. Le « toute chose », c'est le mot « et ». Ce « et », c'est l'instant T, ce petit temps. Nos vies sont faites d'une multitude d'instants T, de petits temps que nous employons. C'est la question de l'agenda, finalement. Hein, le « et » hébreu, c'est la question de l'agenda. Qu'est-ce que je mets dans mon agenda? Si je regardais la semaine dernière et que je faisais la liste de tout ce que j'ai fait par tranche de 15 minutes, cela révélerait la manière dont j'emploie mon temps. Cette dimension du temps, de l'instant T, nous invite à nous poser cette question. Est-ce que j'ai des mauvaises habitudes à confesser? Est-ce que j'ai des occupations chronophages qui m'empêchent de libérer mon temps pour Dieu? Olam, l'éternité, Zaman, l'étape de vie, et Et, l'instant T. Dieu nous donne le temps nécessaire pour tout ce qu'il voudrait, pour tout ce qu'il voudrait que l'on fasse. Il ne s'est pas trompé. Il nous a donné suffisamment de temps. Si nous n'avons pas assez de temps, c'est que nous faisons des choses qui ne figurent certainement pas dans son plan pour nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des amateurs d'échecs dans l'assemblée. Je ne suis pas un très grand amateur, mais je sais jouer aux échecs. Et l'échiquier est quand même un objet intéressant. Parce que pour jouer aux échecs, on est limité aux 64 cases qui se trouvent ici. On pourrait comparer notre temps à cet échiquier. Nous disposons tous de 64 cases, si on le prend à l'échelle de la journée ou de la semaine ou de l'année. Et bien souvent, moi j'essaie de rajouter une 65e case. Mais ça marche pas. Il n'y a que 64 cases à l'échiquier. Et je ne peux pas essayer d'en rajouter. Peut-être aussi qu'il y a des cases de mon échiquier qui sont bien sombres et que je n'aimerais que personne ne connaisse. Dieu connaît chaque case de notre échiquier. Et Dieu veut que cette œuvre de rachat, de rédemption qu'il a accomplie par son Fils Jésus-Christ vienne illuminer chacune de nos 64 cases. Alors voilà un défi pour nous de regarder notre échiquier avec sincérité devant Dieu et de dire « Seigneur, qu'y a-t-il qu'il faut que je change là-dedans? Où est-ce que tu veux me dire quelque chose dans la manière de gérer mon temps? Est-ce que je n'ai pas une décision à prendre en cette rentrée 2020? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux que j'abandonne dans ces cases pour quelque chose de meilleur? Est-ce qu'il n'y a pas une priorité qu'il faut que je change finalement pour que cet échiquier, il se laisse transformer par ce que toi, tu veux faire dans ma vie pour racheter mon temps? » C'est la deuxième vérité que je veux appuyer. Racheter le temps, c'est considérer la manière dont j'utilise mon temps en vue de la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre que Dieu fait et veut faire et veut continuer à faire dans notre vie pour que de plus en plus, nous ressemblions à qui nous sommes déjà en Christ. La Bible nous appelle des bien-aimés, des saints, des personnes qui sommes en sécurité, qui n'avons pas à craindre parce que notre vie est entre les mains de Dieu. On l'a célébré ce matin. Voilà notre identité. Et notre vie sur terre, ce petit passage sur la terre, a pour objectif que nos vies soient transformées pour ressembler de plus en plus à qui nous sommes déjà en Christ. Réfléchissons à la manière dont nous utilisons notre temps en vue de la sanctification. On a une sœur dans l'église qui s'est convertie il y a 2 ans et demi de ça maintenant. Elle était très très loin de Dieu. À l'âge de 46 ans, elle a perdu sa maman d'un cancer. Quelques mois après le décès de sa maman, on lui diagnostiquait exactement le même cancer. À ce moment-là, elle n'a pensé qu'à une chose, mettre un terme aux 64 cases, mettre un terme à sa vie. Ça vaut pas le coup. Sa vie était détruite familialement, professionnellement, et on lui annonce cette maladie. Et ça, ce sont les hasards de Dieu avec un grand D. À 3 reprises, dans cette épreuve terrible qu'elle a passée, des personnes qu'elle ne connaissait pas ou peu lui ont dit, Mais est-ce que tu connais Jésus ? Interpellée, trois personnes qui lui posent cette question. Elle s'est mise à dire « Jésus, j'aimerais te connaître ». Celui qui fait appel à Dieu, Dieu lui répond et lui révèle des choses qu'il ne connaissait pas jusque-là, nous dit la Bible. Et c'est ce que Dieu a fait dans sa fidélité. Il s'est révélé à elle et elle a rencontré Jésus dans sa misère. Elle s'est convertie. Elle est arrivée dans notre église du CEP dans ces circonstances. Elle venait juste de rencontrer le Seigneur, mais elle connaissait rien sur lui. Elle savait juste qu'il l'avait appelée à la connaître. Et on a eu le privilège de l'accompagner, de prier pour elle dans sa maladie. Quelques mois après, les médecins lui annonçaient qu'il n'y avait plus aucune trace de son cancer. Quelle joie ! Et elle a commencé à construire sa vie, à faire des études bibliques, à se faire baptiser. Mais une année après, le cancer est revenu. C'était une grande joie d'avoir vu cette... C'était impossible d'expliquer pourquoi le cancer n'était plus là. Les médecins étaient dubitatifs. Et cette sœur s'est retrouvée de nouveau avec des chimios, des opérations. Elle a été opérée hier. Les médecins lui ont annoncé qu'il lui restait que quelques mois de vie à vue humaine. Et cette sœur est pourtant un encouragement. Elle est une jeune sœur dans la foi. Elle a 2 ans et demi de marche avec le Seigneur. Mais ce dont elle témoigne, c'est de dire « Je ne sais pas le temps que le Seigneur me confiera sur cette terre, mais ce que je sais, c'est qu'il est avec moi. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais je peux témoigner que ce que Dieu me donne de vivre maintenant, c'est en sa présence. » Et elle en éprouve de la joie. Nous nous sommes émus aux larmes. Elle a beaucoup de souffrance. Mais dans cet instant T, dans cette période de vie, elle a les yeux fixés sur le Olam, sur l'éternité, qui lui donne d'être un encouragement merveilleux. Ça, c'est pas une œuvre humaine. C'est pas l'œuvre que l'on peut faire avec nos propres forces. C'est exactement ça, la sanctification. Je termine avec ce dernier verset, le verset 17. Donc je vous relis les trois versets, comme ça on l'a bien en tête. Verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et verset 17, « C'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si racheter le temps, c'est avant tout placer notre foi en Jésus pour lui laisser sanctifier notre temps, il s'agit alors de rechercher la volonté du Seigneur pour notre temps. Et j'aimerais nous rappeler un passage de la Bible qui ne parle pas directement du temps, mais qui répond parfaitement à cette préoccupation de chercher la volonté du Seigneur. Il s'agit de Saul de Tarse, un homme très loin de Dieu. Je ne vais pas raconter sa vie maintenant, mais il a persécuté les chrétiens, et pourtant c'est lui que Dieu a choisi sur le chemin de Damas pour être son serviteur. Je relis au chapitre 22 ce que Paul raconte sur ce qui s'est passé à ce moment-là. « Je suis tombé par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors, j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur ? Que dois-je faire, Seigneur ? Autrement dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est comme ça que Saul, devenu Paul, commençait sa marche avec Dieu. Et cette question, on peut la suivre tout au long de la vie de Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est la question que nous sommes encouragés à nous poser chaque matin lors de notre temps de recueillement avec le Seigneur. Que dois-je faire aujourd'hui ? Que veux-tu que je fasse ? Une bonne partie de notre temps est consacrée à des impératifs. Aller au travail, s'occuper de notre famille, faire les courses, etc. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de demander à Dieu, « Seigneur, est-ce que je dois aller au travail aujourd'hui ?» La Bible est claire à ce sujet, oui, tu dois aller au travail aujourd'hui, parce que c'est une bonne chose que Dieu a donnée. Je parle plutôt de ces temps dans la journée, si j'enlève tous les impératifs, travail, impératifs familiaux, de gestion de maison, il nous reste un certain temps. Certains se sont amusés à calculer ce que ça représente. Ça dépend bien sûr des périodes de vie, de notre activité, mais en moyenne, on peut dire que ce temps libre par jour représente environ 4h30. Des fois, c'est 1h30, des fois, c'est un peu plus. Mais la moyenne qui est calculée, c'est 4h30. En dehors du travail et de toutes les exigences pour lesquelles on ne peut pas se poser la question, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas? Mais ce temps, ces 4h30 ou 7h30 selon ta situation, qu'est-ce que tu en fais? C'est bien de ce temps-là dont je parle, où nous sommes invités à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Si nous disposons chaque jour de ce temps, et que ce temps, nous nous mettons dans cette attitude de cœur à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» il peut diriger notre esprit vers une occupation à laquelle nous n'aurions peut-être pas du tout pensé. Une visite à faire, un coup de téléphone à passer, un texto ou un mail à écrire. Vous savez, cette réponse que vous devez donner depuis des semaines et que vous n'avez toujours pas fait. Bon, je l'ai expérimenté avec Paul cet été. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une démarche de pardon pour demander quelqu'un, pardon à quelqu'un. Une lecture. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous ferons bien de noter cette idée que l'Esprit nous met à cœur. Parce que si vous êtes comme moi, nous avons une propension à vite oublier ce que nous n'avions pas envie de faire. Nous l'évacuons rapidement. Finalement, à chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation où nous avons du temps, dans la journée, nous pouvons nous poser cette question, et c'est très concret. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Parce que notre ambition en tant que chrétien, c'est bien de plaire au Seigneur. Que notre temps, nos 64 cases, elle puisse avoir cette ambition de plaire au Seigneur. Toutefois, dans cette ambition, il nous faut prendre conscience de quelque chose de fondamental. Si nous décidons de « Allez, maintenant c'est décidé, mon temps là, c'est fini, je vais vraiment y aller, je vais l'organiser comme il faut, tu vas voir Seigneur, tu vas être fier de moi. » Le plus zélé des chrétiens, avec sa meilleure des volontés, se retrouvera très rapidement par terre et face à l'échec s'il y va avec ses propres forces. Nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu, de l'œuvre de son esprit en nous, de sa présence pour racheter notre temps. Si Christ peut nous apporter cette libération, alors nous pouvons avoir beaucoup d'espoir pour notre agenda. Il n'y a pas de fatalité. S'il y a des agendas cachés, s'il y a des cases sombres de ton échiquier, s'il y a des choses qui ne rentrent pas, il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ peut encore faire cette œuvre de sanctification dans nos vies. Il y a autre chose aussi, si nous nous mettons dans cette disposition de cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors les choses que nous ferons ne seront pas stressantes, ne seront pas pesantes, même si c'est difficile, parce que nous savons que c'est ce que Dieu veut pour nous. Vous savez ce fameux coup de téléphone tellement difficile à passer, que j'aurais peut-être dû passer, c'est peut-être celui-là, que j'aurais peut-être dû passer depuis longtemps. Si le Seigneur est à l'œuvre dans cette décision de passer ce coup de téléphone à cette personne avec qui il y a eu un différend, oui, ça me paraît impossible à vue humaine, oui, je tremble. Mais si je dis « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et que j'invite le Seigneur par la force de son esprit à le faire, alors je peux être en paix, alors je peux savoir qu'il sera avec moi et que les choses se passeront comme lui veut que ça se passe. Nous ne serons jamais stressés ni surchargés et nous produirons un fruit qui demeure. Hier matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'une sœur de l'église. Et comme vous, on a été embêtés pour organiser notre culte à Marseille. Notre salle est trop petite et nous sommes obligés de limiter à peu près 30% des présents habituels au culte dans la salle pour pouvoir respecter les 4 mètres carrés. On n'a pas le privilège d'un extérieur comme ça. Donc depuis le mois de juin, nous avons organisé des cultes en limitant à 30 personnes le nombre de personnes présentes. On a augmenté à 40 et puis les autres sont à la maison avec un culte retransmis en ligne. Et nous avons prié pour dire « Seigneur, on aimerait ne pas continuer comme ça à la rentrée, c'est pas satisfaisant ». Le Seigneur, dans sa grâce, nous a accordé de pouvoir louer une salle de mariage de 700 mètres carrés dans laquelle on peut tous se réunir. Et en ce moment, alors que nous vivons le culte, c'est le culte, premier culte où toute l'église est réunie actuellement. Alors on a communiqué, on a envoyé des WhatsApp, des mails pour dire « Génial, ce dimanche, on peut se retrouver tous ensemble ».
éteignez votre ordinateur, pas de culte retransmis, on peut tous venir pour louer le Seigneur comme nous l'avons vécu ce matin. Et donc hier matin, une sœur m'appelle de l'église et me dit, ce matin dans ma prière, j'avais à cœur Jeanne. Jeanne, c'est la doyenne de notre église. C'est une personne âgée de notre église et elle ne dispose pas de WhatsApp et d'Internet et des mails, etc. Est-ce qu'on a pensé à prévenir Jeanne que le culte allait se passer là-bas? Et j'ai réalisé que moi aussi, ces derniers jours, le Seigneur m'avait mis à cœur Jeanne. Mais contrairement à ma sœur, je n'avais pas pris mon téléphone pour appeler. Seigneur, merci pour ta grâce de m'avoir donné cette sœur qui, elle, a pris son téléphone et a appelé Jeanne. Jeanne a été hospitalisée cette semaine et elle a besoin de notre soutien. Et on a failli passer à côté de ça. On a failli se retrouver tous ensemble en oubliant Jeanne. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et quand ma sœur de l'église a prié, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans sa prière le matin? C'est bien Jeanne qui l'a mis à son esprit. Et Jeanne a pu être contactée, alors c'est en cours en ce moment. Mais vous voyez, c'est très concret ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Avez-vous le temps? C'est comme ça que j'ai commencé cette question que je nous pose à chacun d'entre nous. Voilà le défi qui est pour nous. Premièrement, nous sommes appelés à renoncer à une vie de fou. Peut-être que certains d'entre nous ici, nous vivons une vie de fou. Une vie avec 75, 65, peut-être 66 cases. Ça ne passe pas. Ce n'est pas possible. Nous négligeons forcément des choses importantes que Dieu nous donne. Peut-être est-ce notre épouse, notre mari. Peut-être est-ce nos enfants, notre famille. Ne menons pas des vies de fous, mais déposons devant le Seigneur nos emplois du temps. Seigneur, montre-nous là où nous devons réorganiser nos priorités. Une deuxième chose à laquelle nous sommes appelés, c'est renoncer à la paresse. Parce que si nous sommes capables de mener des vies de fous, nous sommes aussi capables d'être paresseux. Seigneur, montre-moi s'il y a de la paresse qui s'est immiscée, de la négligence dans ma relation avec toi, dans le temps que je veux prendre chaque jour, chaque semaine, avec mon épouse que tu as placée à côté de moi, dans le temps que je veux passer avec mes enfants, dans le temps que je veux passer à te servir dans l'église. Et du coup, ça veut dire, c'est la troisième chose, lutter contre les voleurs de temps. Vous les connaissez, ces voleurs de temps? Ici, j'en ai un qui est très très fort. Voleur de temps professionnel et exceptionnel, qui est apparu dans nos vies. C'est quand même intéressant de penser que, peut-être 60 ans, 70 ans en arrière, on va dire un siècle en arrière, une grande partie du temps, vous savez, les 4h30 dont je parlais tout à l'heure, était occupée par des tâches ménagères nécessaires. Aujourd'hui, je peux passer un coup de téléphone pendant qu'un robot fait le ménage dans le salon, en même temps qu'une machine à laver lave le linge et qu'une autre sèche le linge, en même temps qu'un lave-vaisselle lave la vaisselle et je pourrais continuer ainsi. On n'a jamais eu autant de choses pour nous faire gagner du temps et pourtant, nous manquons encore de temps. Seigneur, montre-nous quels sont les voleurs de temps qui viennent nous prendre ce temps, les écrans, les activités abrutissantes, ou peut-être ces choses plus cachées dont je parlais tout à l'heure et dans lesquelles le Seigneur veut venir mettre sa lumière. C'est André Adoul qui rappelle malicieusement que celui qui passe 30 minutes par jour devant son miroir, au bout de 48 ans, aura perdu une année entière à se regarder dans la glace. Ce sont ces petits êtres, ces petits instants T qui, mis bout à bout, peuvent être complètement envahis par ces voleurs de temps. Quelles sont les bonnes priorités? Nous devons mettre Dieu en premier, avant toute chose. Si nous sommes mariés, nous sommes appelés à mettre notre conjoint en deuxième. Parce que nos couples, nos familles sont bien attaqués par cette histoire du temps et le diable fait son œuvre. Si nous avons des enfants, nous devons mettre nos enfants en troisième priorité parce que Dieu nous les a confiés. Si nous avons un travail, nous devons mettre notre travail en quatrième priorité parce que Dieu veut que nous travaillions. Mais le travail ne doit pas non plus prendre la place sur ses premières priorités ou sur ce que Dieu nous appelle à faire avec les dons qu'il nous a donnés. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? De quelle manière il veut que tu emploies ton temps pour le servir? Avant toute chose, passez du temps avec le Maître. Ce fameux temps de recueillement le matin, ou dans la lecture de la parole, dans la prière, ou le soir ou à midi, je peux dire au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je vais prier. » Seigneur, merci pour ta parole qui est concrète. Ta parole qui est la vérité et qui est aussi pleine d'espoir pour nous. Seigneur, merci pour notre vie que tu as rachetée par l'œuvre de grâce que tu as accomplie par ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que cette grâce qui coule de la croix a racheté non seulement notre vie éternelle, mais aussi cette vie sur la terre. Seigneur, donne-nous de vivre cette vie sur la terre là où nous en sommes, dans l'étape où nous sommes, ces instants T qui composent notre vie, à la mesure de l'éternité. Cette destinée que tu as réservée pour nous, cette place que nous avons auprès de toi dans le ciel, mais qui commence maintenant. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, dans ces jours mauvais, où nous pouvons désirer racheter le temps, parce que toi, tu es capable de le faire. Seigneur, il y a peut-être des décisions que je dois prendre maintenant, quant au temps. Des choses à confesser, des choses qui doivent changer. Seigneur, donne-nous de le faire, non pas avec nos propres forces, notre volonté bien limitée, mais donne-nous de chercher de tout notre cœur ton secours. Le secours est en toi, et tu veux faire cette œuvre que tu as préparée d'avance pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nos vies te glorifient. Merci, parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Au nom de Jésus. Amen.